Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du C2 Podcast, épisode au cours duquel nous allons tout savoir, ou presque, à propos des OPCO. Déjà, on va chercher à savoir ce que cela veut dire et ce dont il s'agit. On va essayer d'en connaître la composition, on va essayer d'en connaître l'organisation, d'identifier les moyens, les missions et puis, bien entendu, les réalisations. Et pour cela, nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Denis Jorel, qui est délégué régional Hauts-de-France au sein de l'OPCO des entreprises de proximité, que l'on appelle aussi l'OPCO EP. Bonjour Denis. Et bienvenue.
Bonjour Nicolas, merci.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, Denis, pour commencer, vous présenter, nous présenter l'OPCO EP et en particulier, bien entendu, l'OPCO EP Hauts-de-France.
Alors, je suis Denis Jorel, je suis, vous l'avez bien dit, délégué régional pour le compte de l'OPCO des entreprises de proximité dans la région Hauts-de-France. Donc, l'OPCO des entreprises de proximité est une structure toute jeune puisqu'elle a été créée suite à la réforme de 2018, la grande réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et elle fait partie du paysage des OPCO. Il y en a 11 aujourd'hui en France. Pour l'OPCO des entreprises de proximité, la structure émane, je dirais, d'un accord constitutif paritaire. Hein. On a des représentants des organisations patronales que sont l'UDP et la CPME et les 5 organisations syndicales de salariés. Cette OPCO est habilitée par l'État pour mettre en œuvre un certain nombre de missions. Alors, dans les missions, on apporte d'abord un appui technique aux branches professionnelles. Quand je dis apporter un appui technique aux branches professionnelles, ça veut dire qu'on travaille pour le compte des branches sur les certifications professionnelles, sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, et également sur les définitions niveau de prise en charge des contrats en alternance. Donc ça, c'est une grande mission. Pour le compte de l'OPCO EP, c'est 54 branches professionnelles. Nous sommes le plus important OPCO de France avec le plus grand nombre de branches professionnelles. Nous avons une deuxième mission qui est d'assurer un service de proximité, une mission de proximité, où là, l'objectif, c'est d'accompagner nos TPE, PME dans leurs projets emploi et formation. Donc, nous avons une répartition par territoire et un appui de ces entreprises pour à la fois bien comprendre quelle est leur problématique emploi-formation et à partir de ces besoins, de ces problématiques, de monter en place des actions pour les accompagner sur toutes ces questions ressources humaines, emploi, formation, compétences et alternance. Et une dernière mission qui est extrêmement importante, nous sommes également financeurs. Donc nous finançons les actions qui relèvent de la formation des salariés pour les entreprises, mais également de l'alternance et de l'apprentissage dorénavant qui était auparavant une compétence des régions.
J'ai bien entendu, il y a un mot parmi plusieurs autres mots, bien sûr, mais il y a un mot qui résonne depuis tout à l'heure, c'est le mot proximité. Et il me semble quand même avoir perçu ou aperçu que cette proximité était on ne peut plus manifeste. J'entends par là, j'essaye de glisser tout doucement dans le propos, l'existence d'antennes.
Oui, tout à fait. En fait, pour l'OPCO des entreprises de proximité, c'est repris d'ailleurs dans son intitulé, c'est les entreprises de proximité. Nous sommes là pour accompagner ces entreprises de proximité, je dirais en proximité de ces entreprises. Puisque ces entreprises de proximité, nous avons plus de 400 000 entreprises pour l'OPCO des EP, ce qui représente en région Hauts-de-France un peu plus de 40 000 entreprises. Et majoritairement, ces entreprises ont moins de 50 salariés. 99% des entreprises ont moins de 50 salariés. Donc on est vraiment sur la petite entreprise. C'est vraiment une particularité de notre OPCO. Et je dirais, le travail qui est mené par les conseillers de proximité, c'est aussi un travail un petit peu de terrain, un travail RH pour mieux les aider, les accompagner. Parce que bien souvent, le dirigeant de ces petites entreprises, il a beaucoup beaucoup de sujets à traiter. Et l'appui qui est apporté par l'OPCO EP lui permet de mieux appréhender ce sujet qui est l'emploi et la formation au sein de son entreprise.
On commence à mieux connaître hein, votre cible. J'ai bien entendu, puis j'avais relevé également que l'OPCO EP Hauts-de-France représente, vous l'avez dit, près de 40 000 entreprises adhérentes. J'ai le chiffre précis, s'il n'a pas changé, 3274, et pas loin de 150 000 salariés qui sont couvert. On sait que ce sont des entreprises plutôt donc de petite taille, c'est ce qu'on vient de voir ensemble. Et pour quel motif vous intervenez auprès d'eux ?
Oui, alors il y a peut-être aussi un chiffre qui est important, vous l'avez dit, 40 000 entreprises, 150 000 salariés, mais c'est également le nombre de jeunes en alternance. Nous sommes le premier opérateur de France en matière de gestion de l'alternance et notamment des contrats d'apprentissage. Alors, il y avait auparavant dans ces entreprises des pratiques un petit peu ancestrales de formation, d'accompagner des jeunes à travers l'apprentissage, hein, puisque majoritairement, on a beaucoup d'entreprises qui relèvent de l'artisanat, du commerce, des services de proximité, des petites entreprises. Et donc, l'alternance est quelque chose, une voie de formation très développée au sein de notre OPCO.
Et ça représente combien de postes, par exemple, à pourvoir en alternance?
Alors, les postes, ils sont très nombreux. Ils sont à plusieurs, parfois plusieurs centaines de postes à pourvoir. Aujourd'hui, on est sur la rentrée. Hein. On travaille avec les CFA sur, justement, la préparation et les mises en relation pour les aider à recruter, à promouvoir leurs filières. On est, je dirais, il y a un engouement sur cette voie de formation depuis 2 ans, puisque le taux de croissance de l'alternance en France et en région, il se situe à plus de 2 chiffres, hein. Donc on a un fort développement actuel de cette voie de formation. L'État y a contribué puisqu'il y a un soutien aussi massif, je dirais, de l'État, notamment pour avoir le maintien, je dirais, de cette voie de formation. Également pendant la période de Covid, il y a eu des primes aux employeurs, etc., qui ont permis, je dirais, aussi de maintenir, voire de renforcer cette filière de formation.
Justement, ça va nous permettre d'essayer d'identifier, ou en tout cas, ça va vous permettre d'essayer de nous proposer une représentation de la diversité des opérations qui sont à mener et qui sont menées, tant cela semble être un périmètre d'action étendu.
Alors oui, évidemment, pour nous, particulièrement en délégation Hauts-de-France, c'est l'accompagnement des entreprises en proximité. Donc, l'objectif, c'est d'offrir à toutes les entreprises, quelle que soit sa taille, l'offre de formation de l'OPCO. Hein. Donc, on est bien vigilant, que ce soit une entreprise qui a un salarié ou une entreprise qui en a 250. Notre objectif, c'est bien que toutes les entreprises aient accès à l'offre de services de locaux des entreprises de proximité. Donc un principe d'universalité, un principe aussi, je dirais, d'accompagnement de ces entreprises. On a une répartition avec une centaine d'implantations partout en France et dans les Drôme et aussi dans les Hauts-de-France, bien évidemment. On quadrille, je dirais, tous les territoires par un conseil de proximité assuré par des conseillers, donc qui gèrent, je dirais, sur les territoires leur portefeuille d'entreprise avec l'objectif de les rencontrer, de bien analyser, je dirais, leurs besoins emploi formation, mais surtout de leur proposer, je dirais, nos services pour apporter justement des solutions à ces problématiques, quelle que soit la taille des entreprises.
Et cela nous donne donc des orientations stratégiques.
Voilà, ça nous donne des orientations stratégiques qui, évidemment, se faire en sorte que les entreprises qui sont déjà engagées, qui connaissent les dispositifs emploi-formation, je dirais, il n'y a pas de souci, on peut aller toujours plus loin. Mais c'est surtout aussi les petites entreprises qui n'ont pas connaissance, parfois, de dispositifs qui peuvent répondre à des besoins bien identifiés.
C'est déjà leur apporter de la formation.
C'est déjà, voilà.
De l'information,
le premier sujet, c'est de l'information. l'amélioration de la promotion aussi. C'est toujours dommageable de savoir qu'une entreprise peut passer à côté d'un soutien de l'OPCO, voilà, pour répondre à des besoins précis. Donc l'information, l'accompagnement et puis les solutions à apporter. Et donc nous avons retravaillé et depuis quelques semaines, nous avons une toute nouvelle offre de service qui vient d'être publiée justement pour apporter des solutions encore plus nombreuses justement aux besoins qui ont été détectés.
On peut en savoir plus à propos de cette offre de service?
Alors l'offre de service elle est très très large, hein. Alors il y a une offre nationale, hein, qui intervient sur le champ du recrutement, de la formation, de l'accompagnement. Donc on a plus de 130 solutions formation, hein, vous voyez un petit peu le panel très large qui est proposé aux entreprises. Et d'un point de vue régional, nous mettons en place ce qu'on appelle un plan d'action régional. Alors pour la région Hauts-de-France, c'est donc le plan d'action régional Hauts-de-France avec quatre cibles principales. La première cible, ce sont les entreprises. Donc pour aller les rencontrer, justement multiplier les visites auprès de ces entreprises, analyser leurs besoins. On a un outil qui s'appelle le réflexe qui nous permet de sortir ce qu'on appelle de l'observation territoriale, voilà, sur quelles sont les problématiques, quels sont les besoins, quelles sont les perspectives de développement de ces entreprises. Et donc, à partir de cette analyse, de mettre en place ces plans d'action. On a une deuxième cible qui sont les acteurs des branches professionnelles en région. Donc, on rencontre aussi ces acteurs pour le compte de nos branches, de nos 54 branches, pour aussi bien comprendre l'expression de leurs besoins, de leur stratégie régionale et essayer, en lien avec ces branches, de mettre en place des actions dans les territoires. La troisième cible sont les partenaires privilégiés que sont les organismes formation et les CFA. Donc nous accompagnons un peu plus d'une centaine de CFA en région. Hein. Je le disais auparavant, nous sommes le premier opérateur en termes de gestion des contrats d'apprentissage. Et donc nous les accompagnons. Et nous les suivons. Et puis la dernière cible sont les partenaires, puisque l'OPCOEP doit répondre à une démarche plus large qui est prendre une place dans un écosystème régional en lien avec les autres partenaires de l'emploi et de la formation, que sont la région Hauts-de-France, que sont les chambres consulaires, que sont l'association Transition Pro, pour ne citer que cela. Voilà, on a développé un certain nombre de partenariats pour être plus efficient en termes de réponses à apporter au territoire et à nos entreprises.
On voit bien, on discerne bien les quatre lignes directrices identifiées en Hauts-de-France. On va s'intéresser dans un instant aux centres de formation d'apprentis ou aux organismes de formation en apprentissage ou par apprentissage. Mais déjà dans un premier temps, puisqu'on a quatre grandes lignes directrices, cela fait quatre rayons d'action. Et pour tout ça, il faut un certain nombre de moyens parmi lesquels on peut identifier.
Voilà, alors évidemment, on a une équipe régionale de proximité, hein, donc c'est les premiers moyens, c'est les moyens humains. Donc une trentaine de personnes qui sont affectées à ces métiers de la proximité, du conseil ou de l'ingénierie pour monter des dispositifs adaptés aux besoins locaux. Donc voilà, une trentaine de personnes. Et puis on a également des moyens financiers. Donc pour le budget Hauts-de-France, c'est à peu près une centaine de millions d'euros. Donc ça, c'est des budgets qui nous permettent de financer les contrats, les CFA, les consultants, voilà tous les partenaires qui mettent en œuvre le projet de l'OPCO. C'est aussi des retombées économiques, hein, puisque derrière, c'est des formateurs, des organismes de formation qui travaillent, voilà, à peu près pour cibler une centaine de millions d'euros avec, voilà, la grosse partie, c'est quand même pour l'alternance et l'apprentissage, notamment pour voilà financer tous les contrats, puisque la réforme a fait qu'aujourd'hui, nous finançons tous les contrats en alternance, tous les contrats au coût contrat défini par la branche professionnelle. Il n'y a pas de limite.
Comme convenu, faisons un focus sur les CFA et essayons justement de détailler les différentes actions qui sont menées, les moyens mis en œuvre, avant peut-être de prendre un ou deux exemples pour illustrer tout cela.
Voilà, alors le focus des CFA, évidemment, l'alternance et l'apprentissage est maintenant au cœur, je dirais, de l'action de l'OPCO. C'est vraiment un gros sujet que met en œuvre cette l'OPCO à travers ses nouvelles missions. Au niveau national, je vous dis, on a aujourd'hui un peu plus de 100 000 contrats en alternance en gestion, ce qui se traduit à peu près pour la région Hauts-de-France à 7 000 contrats. Alors, là aussi, le chiffre évolue plutôt à la hausse et c'est très bien, hein, puisque je vous disais qu'il y avait un engouement sur cette voie de formation, tant du côté des entreprises que des jeunes. On sent voilà qu'il y a vraiment une croissance. Donc nous accompagnons une centaine de CFA. Nous avons géré et financé un peu plus de 7 000 contrats actuellement, mais le chiffre augmente. Avec l'objectif déjà de répondre à la gestion administrative et financière de ces contrats sous un principe de la dématérialisation, l'objectif étant de simplifier, je dirais, tous les process et les procédures d'enregistrement, les procédures administratives. Donc on a eu un énorme travail de mener en 2020 pour passer, je dirais, pratiquement du tout papier au numérique, et l'objectif c'est 100% full démat. Avec, nous sommes d'ailleurs le premier OPCO depuis quelques semaines à mettre en place la signature électronique pour les contrats d'apprentissage, donc ce qui nous permet de traiter en des temps records, je dirais, l'enregistrement et le paiement tant des primes auprès des entreprises que d'engager le financement du CFA, du coût contrat au CFA. Donc là, vraiment, c'était le premier sujet. Et donc, nos conseillers ont accompagné, je dirais, les CFA dans cette démarche. Et puis après, on a tous les autres sujets, je dirais, du développement. Au-delà de la gestion administrative, c'est l'accompagnement. Donc, nos conseillers rencontrent régulièrement les CFA, là aussi pour poser, je dirais, leur diagnostic, comprendre quel est leur besoin, comprendre quel est leur projet de développement. Et nous, en tant qu'OPCO, nous sommes là pour les accompagner sur des démarches de certification, sur des démarches de conseil. Donc, il y a un gros travail aussi qui est mené d'analyse aussi de ces besoins. Ça peut être sur des thématiques telles que le handicap en apprentissage, telles que la mobilité internationale. Voilà. Je veux dire, tous les sujets nous intéressent du moment que ça concourt à développer, je dirais, cette filière de formation dans les CFA. Donc, on a vraiment cette relation de proximité aussi. Je parlais tout à l'heure des entreprises, mais également avec ces CFA.
On voit bien donc vos actions envers les établissements, les organisations, hein, OFA, CFA. L'apprentissage, c'est un sujet qui est pas forcément sensible, on va pas dire ça comme ça, mais c'est un sujet qui est parfois délicat à appréhender parce que l'apprentissage, quelque part, aurait besoin d'être presque réhabilité. Il souffre d'une image qui est ternie. On en connaît peut-être les causes. On se demande toujours pourquoi cette image reste un petit peu terne. Est-ce que vous menez des actions, alors non pas simplement en direction des établissements, mais en direction des populations qui vont ensuite venir fréquenter ces établissements? J'entends les jeunes gens qui s'inscrivent en apprentissage, qui souscrivent à des contrats d'apprentissage.
Vous avez raison de le souligner, Nicolas, on vient de loin. Hein. L'apprentissage, c'était quand même une voie de formation désuète, hein. Un petit peu qui remonte de très loin. C'était la tradition à travers le métier. Et puis, il faut savoir que jusqu'à la fin des années 80, c'était en 88, on était sur un seul niveau de formation qui était le CAP, voilà, avec des traditions, certaines branches de l'artisanat. À partir de là, l'apprentissage est ouvert à tous les niveaux de formation. Et aujourd'hui, on peut préparer du CAP à l'ingénieur, des masters, sur toutes les métiers aussi. Il y a une offre de formation très, très conséquente aujourd'hui. Donc, il est possible de devenir aussi bien ingénieur pour travailler sur l'Airbus dernier cri par l'apprentissage, ou être boulanger-pâtissier en apprentissage. Donc, on a bien un accès, je dirais, à tous les niveaux de formation et à tous les métiers possibles. Voilà, ils sont très larges. Après, c'est vrai que cette image désuète a fait qu'il a fallu et il faut encore faire le pas de c'est quoi l'apprentissage, c'est quoi cette voie de formation auprès des familles, auprès du grand public. On était encore sur un schéma très classique de la formation scolaire, traditionnelle, académique, voilà. Et je dirais, on envoyait peut-être parfois les mauvais éléments dans la voie de l'apprentissage, de la voie professionnelle.
Ça avait cette réputation, c'est-à-dire de voix, pardon pour l'expression, un peu populaire, une voie de garage. C'est-à-dire que si on ne faisait pas, si on ne passait pas son bac, si on ne poursuivait pas avec des études supérieures, en tout cas si on avait détecté que c'était pas la trajectoire qui serait suivie, on nous invitait à aller suivre un apprentissage, à rapidement entrer dans le monde du travail, dans la vie active.
C'est ça, tout à fait. Alors ça, c'était évidemment une problématique qui perdure un petit peu, mais qui tend à se gommer, parce que aujourd'hui, on a un apprentissage aussi qui se développe fortement dans le supérieur, et donc qui tire aussi l'image. Je dirais, il y a aujourd'hui beaucoup d'universités, beaucoup de grandes écoles d'ingénieurs qui se sont lancées dans cette voie de formation, et donc qui tirent, je dirais, vers le haut l'apprentissage. On a aussi une comparaison un petit peu avec le modèle dual allemand, et l'apprentissage, c'est aussi un excellent vecteur pour l'emploi et l'insertion professionnelle dans l'entreprise. C'est ce trait d'union qui manque parfois à des jeunes, voilà, qui ont une méconnaissance du métier, une méconnaissance dans l'entreprise. Et l'apprentissage concourt, l'alternance concourt fortement à favoriser cette intégration dans l'entreprise, d'avoir une première expérience professionnelle. Et donc, je dirais, l'apprentissage aujourd'hui est cité comme aussi une voie d'excellence, justement, à travers ses vertus, à la fois de formation, mais également d'insertion professionnelle dans l'entreprise, d'expérience. Et on a des taux d'insertion professionnelle excellents voilà, dans le monde du travail.
Et si je suis un jeune garçon ou un tout jeune homme qui ne sait pas encore exactement quelle serait la voie qu'il aimerait suivre, quelle est justement l'action que vous pouvez mener auprès d'eux? Quels outils vous mettez à leur disposition?
Alors c'est garçons et filles.
Garçons et filles, bien sûr.
Garçons et filles, on est bien d'accord sur tous les métiers. Évidemment, parce que la question de la promotion, des filières, la promotion des métiers, de la valorisation des métiers est au cœur aussi de notre action. C'est vraiment une problématique aujourd'hui identifiée qui nous est demandée également par nombre de nos branches professionnelles de travailler comment promouvoir les métiers, comment attirer les talents. Et donc il y a un gros travail qui est actuellement en cours de réflexion. On a mis en place quelques outils, on peut déjà les retrouver sur notre site internet. On peut citer par exemple le Hub de l'alternance, qui est une plateforme d'entrée pour les acteurs que sont les maîtres d'apprentissage, les jeunes et les CFA, afin de promouvoir leur offre de formation, de promouvoir leur offre également de contrat d'apprentissage, mais également aux jeunes d'avoir une connaissance, je dirais, une lecture à la fois de l'offre de formation, de monter un CV et puis de se connecter avec des entreprises qui ont des besoins de recrutement. On a également un outil qui s'appelle une plateforme Bouge ton avenir qui met en place des vidéos de promotion des métiers porteurs, des métiers qui recrutent. Donc on a des vidéos qui permettent de mieux appréhender quels sont ces métiers, d'avoir une meilleure connaissance et donc de favoriser, je dirais, l'orientation de ces jeunes vers ces métiers-là. Voilà deux exemples, mais on est également partenaire sur des opérations telles que Avenir Jeune, en mettant en place des webinaires de promotion de l'apprentissage. On participe à des salons également, que ce soit en distanciel ou en présentiel. Par exemple, cette année, nous étions partenaires des Nuits de l'Orientation avec la Chambre de Commerce et d'Industrie pour favoriser, je dirais, et promouvoir les métiers de l'OPCOEP dans ces salons et auprès des jeunes et des familles.
Et si on devait prendre un exemple ou bien dresser un portrait robot d'une action remarquable qui est en cours ou bien qui a pu être menée il y a quelques semaines, quelques mois ou quelques années, laquelle vous viendrait à l'esprit?
Alors, je peux en citer deux. Il y en a une qu'on renouvelle, qui est vraiment ce qu'on appelle les préparatoires, des actions préparatoires à l'entrée en alternance. Donc, ce sont des dispositifs qu'on finance auprès des CFA qui permettent de travailler en amont sur le projet du jeune, de l'aider à mieux connaître, je veux dire, les métiers, d'affiner son projet et puis de favoriser l'intégration vers un contrat d'apprentissage, ce qu'on appelle les préparatoires. Donc en amont du contrat d'apprentissage, le travail de découvert, de préparation du jeune à ce projet. On est également sur une autre action un petit peu plus expérimentale avec l'obligation qu'ont maintenant les régions, l'État qui a lancé sur l'obligation obligation de formation des jeunes 16-18 ans qui sont peut-être plus en peut-être en déshérence ou sortie du système scolaire pour favoriser le retour, je dirais, dans un métier, une formation. Donc on travaille là sur une expérimentation avec la Maison de l'Emploi, Mission Locale de Roubaix et l'AFPA. Ces deux organismes ont été identifiés dans le texte, je dirais, de l'État pour cette obligation-là. Mais nous apportons notre pierre, je dirais, on contribue à ce dispositif par apporter justement les besoins, les emplois qu'on a identifiés sur ce territoire. Donc, dans l'occurrence, dans la branche de la boulangerie, de l'esthétique, etc. Nous avons fait, je dirais, un travail d'enquête auprès des entreprises et on essaye d'intégrer des jeunes de ce dispositif, de cette obligation dans nos entreprises. Voilà, donc ça c'est une action qui est actuellement en expérimentation et qui on souhaite aussi développer, renforcer ce type d'initiative puisque, comme je le disais dans mes propos préalables, les entreprises, il y a encore de nombreux contrats non pourvus, faute de trouver des jeunes.
Très bien. Eh bien, je crois que nous arrivons au terme de cet épisode, au temps que nous nous étions impartis, dont nous avions convenu. On a fait un tour assez étendu de la question. Évidemment, nous pourrions continuer de développer plus en détail. Et vous retrouverez en tout cas toutes les ressources qui ont pu être mentionnées tout au long de cet épisode dans les détails et commentaires qui seront publiés au moment où l'épisode sera mis en ligne. Je vous remercie, Denis Jorel, de votre participation et de votre disponibilité. À bientôt.
Merci Nicolas.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.